L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, retour sur la journée internationale de la francophonie mercredi dernier. En Afrique, le français est-il toujours la langue du colon? Eh bien, on verra ça dans un instant. Au programme également, la Suisse avec le Parlement qui envisage de renforcer la lutte contre le terrorisme. En France, le tollé, y compris au sein de l'Église, après le refus du pape d'accepter la démission du cardinal Barbarin. On parlera encore du projet de loi au Canada pour faire cohabiter les taxis traditionnels avec les chauffeurs de chez Uber notamment. Et puis en Belgique, la mobilisation des magistrats inquiets de l'état de la justice belge. Voilà pour le programme francophone. Bienvenue à tous. C'est une première dans un gouvernement suisse, une majorité de femmes. Et la dernière arrivée s'appelle Rebecca Ruiz. Elle vient d'entrer au sein de l'exécutif du canton de Vaud, Pierre Anchauffard.
Oui, 5 femmes sur les 7 membres de ce collège gouvernemental élu par le peuple. Une telle majorité féminine, c'est du jamais vu chez nous. La socialiste Rebecca Ruiz, 37 ans seulement, accède au Conseil d'État à l'occasion d'une élection partielle et confirme en passant la majorité de gauche à l'exécutif, alors que le Parlement est clairement à droite. Une victoire plus rapide que prévu. Son adversaire de l'UDC a préféré jeter l'éponge à l'issue du premier tour. Le conservateur ne se voyait pas combler ses 10 points de retard.
En Belgique, le gouvernement wallon se retrouve paralysé au moins jusqu'au 1er avril, peut-être même jusqu'aux élections législatives du 26 mai. La faute à une certaine Patricia Pottini. C'est une personnalité jusque-là inconnue, Maxime Dumoulin.
Patricia Pottini occupait le siège qui maintenait ensemble la majorité centre-libérale en région wallonne. À la base libérale, Patricia Pottini a décidé de rejoindre les rangs d'un parti tout jeune. Son nom, la liste de Steck, ce parti très à droite. C'est le deuxième gouvernement du côté wallon et francophone qui s'embourbe. Le gouvernement fédéral est lui en affaires courantes après une dislocation de la majorité en place. Un sur les 3 tourne encore. Avec cette nouvelle panne politique, un nombre conséquent de dossiers sont mis KO. Le ministre de l'Emploi qui devait faire aboutir le dossier de son mandat a déclaré « Si j'étais Patricia Pottini, j'aurais du mal à me regarder dans la glace ».
On part en République démocratique du Congo avec un nouveau patron à la tête des renseignements, Charlotte Hydrak.
Oui, la très puissante et redoutée ANR, l'Agence nationale des renseignements, régulièrement pointée du doigt pour des arrestations et détentions extrajudiciaires, cachots clandestins, mauvais traitements ou tortures, son désormais ex-chef Khalef Moutonde est d'ailleurs sous sanction de l'Union européenne. C'est son ancien numéro 2 qui le remplace, Inzoun Kakiak. Alors cette nouvelle tête annonce-t-elle une nouvelle ère à l'ANR? Les défenseurs des droits de l'homme attendent de voir.
Benoît Audet, votre personnalité de la semaine au Canada est une nouvelle victime de l'affaire SNC-Lavalin.
Oui, cette affaire qui n'en finit plus d'embarrasser le gouvernement Trudeau. Cette fois, c'est Michael Wernick, le greffier du conseil privé, donc le patron de tous les fonctionnaires au Canada, qui a annoncé qu'il prenait sa retraite. Michael Wernick a témoigné à 2 reprises devant un comité parlementaire et après son premier témoignage, l'opposition l'avait accusé de protéger le premier ministre. Justin Trudeau a déjà perdu 2 ministres et son conseiller principal dans la foulée de cette affaire.
En France, l'ancien boxeur professionnel devenu gilet jaune, Christophe Détinger, refait parler de lui. Il avait été condamné il y a quelques semaines à de la prison ferme pour avoir tabassé 2 gendarmes. Pour le soutenir financièrement, ses proches avaient créé un compte sur la plateforme de collecte de fonds Litchi, 145 000 euros récoltés en 2 jours. Mais la direction de cette plateforme avait préféré clore le compte au bout de 2 jours, estimant que ce n'était pas sa vocation de soutenir l'ancien boxeur. Et bien aujourd'hui, Christophe Détinger estime avoir subi un préjudice financier, une perte de chance, dit-il. Et avec son avocat, il réclame désormais à Litchi la somme de 3 millions d'euros. C'était donc mercredi, la journée internationale de la francophonie, avec une confirmation. Le français est une langue de plus en plus africaine. En Afrique, le français cohabite avec une multitude de langues locales, Charlotte Hydrak.
Oui, et cela pose des questions de fond. Par exemple, dans quelle langue a-t-on le plus de chances de séduire? À Kinshasa, en République démocratique du Congo, premier pays francophone d'Afrique, où l'on parle une foule d'autres langues, Lingala, Swahili ou encore Chiluba.
En français, tu as la facilité d'exprimer ta romance envers la fille, d'employer tous les mots que tu as étudiés à l'école et puis dans des romans. Tu as en fait la facilité de t'exprimer à l'aise.
Le français peut être la langue de l'amour, elle peut être aussi détestée, perçue comme la langue du colon, cette langue parfois utilisée pour faire des affaires, tout dépend du contexte. Au Tchad, par exemple, où 13% de la population est francophone.
Ici, au niveau du restaurant, le plus souvent, on parle uniquement l'arabe. C'est une manière de se distraire, parce que c'est une langue maternelle. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais dans le cadre de travail, c'est uniquement la langue française qu'on utilise.
Plusieurs langues qui se complètent, interagissent, comme en Côte d'Ivoire, qui a inventé son propre mélange entre français et argot, c'est le nouchi.
Tout ce qui se passe dans le pays, là, politico, sport, tous les kessia. Ça veut tout simplement dire, on va vous donner l'actualité du pays. On va vous parler de politique, on va vous parler de sport et de tout ce qui va avec. Ça, c'est les kessia, kessia. Parce que quand tu veux comprendre quelque chose, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a ?
Et certains termes de nouchi s'exportent comme s'enjailler, comprenez, s'amuser, récemment intégré dans le dictionnaire français.
En Suisse, Pierre Anchoffat, le Parlement paraît déterminé à renforcer le cadre légal contre le terrorisme.
Oui, tout l'indique dans les discussions menées cette semaine sur différentes motions et autres propositions de députés. On a parlé retour de djihadistes suisses, expulsion de terroristes étrangers et même déchéance de nationalité comme des préliminaires au vrai débat sur le durcissement à venir du code pénal, une prise de température en quelque sorte. Et c'est vrai, une forme d'unanimité se dessine pour renforcer le cadre législatif.
Et sur quel point précisément ?
Eh bien, le gouvernement propose, par exemple, d'allonger les peines encourues qui pourraient passer de 5 à 10, voire 20 ans de prison. Il souhaite des dispositions sur le recrutement, sur les voyages en vue d'un acte terroriste. Professeur de droit pénal à l'Université de Lausanne, Alain Macaluso s'étonne du retard de la Confédération en la matière.
La France a un arsenal répressif en matière de terrorisme qui est tout à fait développé. C'est également le cas de la Grande-Bretagne, c'est également le cas de l'Allemagne. Et il y a un certain nombre de convergences dans toutes ces législations qu'on retrouve pas complètement dans le droit suisse actuel. C'est justement l'absence de répression du phénomène terroriste en tant que tel et l'absence de répression de l'apologie du terrorisme.
Le projet du Conseil fédéral utiliserait donc encore trop de circonvolutions aux yeux du professeur Macaluso. Oser définir clairement les actes terroristes donnerait plus de clarté à notre ordre juridique, alors que les débats risquent de se crisper autour des nouvelles mesures préventives dont on veut doter la police. Eh bien, les acteurs du terrain, eux, devront encore patienter avant de disposer d'un arsenal plus solide dans leur lutte contre le terrorisme.
En Belgique, la campagne électorale bat son plein. On vote pour élire quelques nouveaux gouvernements, le fédéral, les régionaux, les communautaires. Et le thème de la justice était très présent cette semaine. Une justice dont l'état de délabrement est similaire à celui du palais de justice de Bruxelles. C'est peu dire, Maxime Dumoulin.
C'est l'image utilisée par le parti écolo. Le palais de Bruxelles, c'est un édifice de la fin du 19e siècle surmonté d'une coupole. Il est plus vaste que la basilique de Saint-Pierre à Rome. Pourtant, ce géant est recouvert d'échafaudages depuis des années et est fréquemment victime d'infiltrations notamment. Cette image reflète assez bien la situation de la justice en Belgique. C'est ce que pensent aussi les magistrats du pays. Ils ont décidé d'interrompre leur travail mercredi. Ils réclament plus de moyens pour faire leur métier.
C'est les fondements de notre démocratie qui est en jeu. À partir du moment où il n'y a pas d'argent pour la justice, tout fout le camp.
Vous le sentez, ce manque de moyens au quotidien dans votre pratique d'avocate ?
Oui, là vraiment, tout à fait, oui, oui.
La justice est en train de foutre le camp. Si vous supprimez le pouvoir judiciaire, un pouvoir unique, c'est quoi ? Je m'excuse de tenir des propos un peu forts, mais c'est la dictature.
Une action sans conséquence pour le justiciable, mais qui a tout de même permis de tirer la sonnette d'alarme à quelques semaines des élections.
En France, les suites de la condamnation du cardinal Barbarin. 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé à la justice les actes pédophiles d'un prêtre de son diocèse. Mais le cardinal Barbarin a fait appel de cette condamnation tout en remettant sa démission au pape. Or, cette démission vient d'être refusée par le pape au nom de la présomption d'innocence, puisqu'il y a appel. Le pape confirme donc le cardinal Barbarin dans ses fonctions d'archevêque de Lyon, ce qui a provoqué un tollé parmi les associations de victimes. L'une de ces associations françaises de lutte contre la pédophilie s'appelle La Parole Libérée et son cofondateur François Deveau est sidéré. Il n'hésite pas d'ailleurs à comparer le pape à Judas.
On a affaire à quelqu'un qui vraisemblablement est un traître, est un Judas. La différence avec Judas, c'est que Judas, il n'avait pas de pouvoir, contrairement au pape, qui lui en reste encore un peu. Quand on prône des valeurs et qu'on ne les respecte pas, quand on reçoit des rapports de l'ONU et qu'on n'y répond pas, quand on prône une tolérance zéro et qu'on ne l'applique pas, on peut difficilement qualifier ça autrement que comme ça. C'est de l'hypocrisie. Il y a un problème intrinsèque à cette église et le pape, aujourd'hui, porte l'entière responsabilité de cela.
La confirmation du cardinal Barbarin a surpris jusqu'au sein même de la vénérable conférence des évêques de France, qui estimait avant la décision papale que le maintien du cardinal serait une catastrophe pour le catholicisme français. Mais les évêques n'ont pas eu gain de cause, même les plus conservateurs pourtant considèrent que le départ du cardinal Barbarin s'imposait. Finalement, et pour tenter de calmer les esprits, le cardinal Barbarin, même s'il conserve son poste, veut désormais se mettre en congé pour une durée indéterminée. Au Québec, le ministre des Transports a déposé un projet de loi qui va encadrer l'industrie du taxi. Cette industrie est bousculée au Canada depuis plusieurs années par le concurrent Uber. Benoît Audet, tout d'abord, quelles sont les grandes lignes de ce projet de loi?
Tous les chauffeurs, incluant ceux d'Uber, devront suivre une formation minimale, réussir un examen et se soumettre à une vérification d'antécédents judiciaires. Entre autres, il y aura encore des véhicules désignés comme des taxis qui devront se soumettre à des règles en matière de tarification, mais ils pourront, s'ils le veulent, laisser tomber cette désignation pour moduler leurs tarifs en fonction de la demande.
Et cette annonce du gouvernement du Québec soulève la colère des chauffeurs de taxi traditionnels.
Oui, même si le gouvernement a prévu un montant de 250 millions de dollars pour dédommager les chauffeurs dont la valeur du permis a diminué depuis l'arrivée d'Uber, cette somme est jugée insuffisante par les compagnies de taxi. Voici un de leurs porte-parole, Abdallah Homsi.
Ça vaut même pas ce que l'industrie va perdre aujourd'hui. Même avec ces calculs-là, l'industrie de taxi va perdre plus qu'un milliard de dollars. Moi, dans mon cas ou dans le cas de plusieurs d'entre nous, on doit par exemple 120 000, 130 000 encore à la banque. Puis quand on annonce une déréglementation totale ou destruction de cette industrie-là, mais la compensation ne vaut plus rien dans le cadre actuel.
Uber, de son côté, salue le projet de loi qui vient en quelque sorte confirmer que cette compagnie est bel et bien là pour demeurer sur les routes du Québec.
Voilà donc pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous francophone, ce sera la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.